franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Revue de presse de l'actualité tout en dessin ce matin. On commence par un candidat embarrassant.
Visage boursouflé à la manière des caricaturistes, mèche folle rabattue sur le front devenue sa marque de fabrique. Donald Trump fait la une du magazine satirique américain Mad avec ce titre de fin d'année. Les 20 personnalités ou événements les plus stupides de 2015 et devinez qui a gagné, s'interroge le magazine. Qui nous suggère la réponse. Encore le visage de Trump, profil en noir et blanc, signé Schwartz, à retrouver dans le New Yorker. Un petit diablotin rouge est posté sur l'épaule du candidat républicain qui affole aujourd'hui son propre camp. Un petit Satan qui lui murmure « Eh mec, tu sais que tu me fous la trouille ?» Ce matin, reportage dans La Croix sur l'inquiétude des musulmans américains après les dernières saillies de Trump qui veut interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Il pourrait être le candidat du Parti républicain et pourquoi pas être élu président. Quand je l'ai entendu, raconte James Yee, ex-capitaine dans l'armée et musulman, je me suis immédiatement demandé comment ça allait affecter des gens comme moi.
Vous commencez à prendre l'histoire au sérieux, Manuel Valls ?
L'histoire, il faut toujours la prendre au sérieux.
Non, mais
d'abord, celle avec un grand H, parce qu'elle peut être tragique. Et nous la prenons. Mais il faut faire évidemment très attention, parce que les sondages le donnent gagnant, en tout cas dans le camp républicain.
35% aujourd'hui, disent-ils.
Et parce que le rejet de l'islam, le rejet des musulmans, la stigmatisation des musulmans, nous la retrouvons aux États-Unis de manière outrancière, scandaleuse, insupportable, mais nous la retrouvons aussi en Europe. C'est une grande explication de la montée des populismes. Et bien sûr, en France, les propos de l'extrême droite en France ne sont pas, sont peut-être plus policés, mais ils ne sont pas très éloignés de ceux de Donald Trump, quand on considère que les musulmans, comme le fait Madame Marion Maréchal Le Pen, sont des citoyens de seconde zone.
En France, le second tour des élections régionales dimanche, également en croquis, Hélène.
Oui, des dessins qui donnent à voir chacun les enjeux de ce scrutin. Le rôle clé des abstentionnistes d'abord. C'est le dessin du jour de Thibaut Soulcier dans la revue Dessinée, une revue d'actualité en bande dessinée. Trois articles dans une vitrine, une corde de pendu pour le PS, un flacon de poison pour les Républicains, un fusil avec un canon retourné pour le FN. Choix compliqué, un homme passe devant la vitrine en sifflotant. Il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. De possibles victoires pour le FN dimanche, ce sont les lettres du mot France qui se cassent la figure une à une devant une Marianne affolée. À la fin, il ne reste que deux consonnes, F et N, croquis à retrouver dans Courrier International. C'est CAC qui, à la une de l'opinion, représente un coq gaulois tout tourneboulé, tourneboussolé, comme dirait Nicolas Sarkozy, un coq atteint du virus F1N1. Jean-Claude Juncker désigne sur une carte la France, à Angela Merkel, on a détecté un nouveau foyer de grippe nationaliste, lui annonce-t-il. L'opinion qui explique avec des mots, cette fois, comment le gain éventuel de région par le Front National dimanche atteindrait l'image de la France en Europe et serait aussi une immense bouffée d'oxygène pour les autres forces populistes et d'extrême droite à l'œuvre dans l'Union. Pas de dessin sur lui, il serait pourtant facile à imaginer. On pourrait par exemple le voir assailli de tomates, tant la presse ce matin est sur le mode « Haro sur Barthaud ». La dernière sortie du candidat socialiste à la région Île-de-France, Claude Bartolone, accusant sa rivale Valérie Pécresse dans une interview à l'Obs.fr, puis en meeting, de défendre, je cite, « Versailles, Neuilly et la race blanche » n'a pas fait qu'enflammer la droite. Elle est aussi largement condamnée par la presse ce matin. À ma gauche, Libération, qui sous la plume de son directeur de la rédaction, Laurent Geoffrin, parle de maladresse rarement vue. Reprendre à son compte, même involontairement, la racialisation du discours politique ne dénote pas d'un sens aigu de l'à-propos politique, dit-il. Que n'a-t-on dit de la phrase de Morano, rappelle Geoffrin, qui reproche donc à Claude Bartolone de recourir aux mêmes ficelles, serait-elle inversée, que le FN ou la droite identitaire. Et à ma droite, le Figaro, qui consacre son édito à ce dérapage. Bartolone se révèle sous un jour détestable, écrit Yves Tréhard. Avec ses propos, il ajoute à la haine la stigmatisation. Pire, il pratique le racisme à rebours. Lui qui ne cesse d'invoquer les grands principes de la République et le fameux vivre ensemble. Que cherche-t-il, s'interroge Tréhard, à s'attirer le vote ethnique, celui des minorités et des quartiers? Est-ce vraiment la France réconciliée dont rêve François Hollande? Alors vous avez refusé tout à l'heure, Manuel Valls, de commenter et de condamner les propos de Claude Bartolone. Le Figaro rappelle que vous disiez pourtant il y a quelques jours à Évry, il faut une force morale nouvelle, il faut être capable de nous sublimer, de nous dépasser sur le plan politique, on ne peut plus être dans le buzz, le dégommage. Pas sûr pour le coup que vous ayez été entendu au moins par Claude Bartolone.
Oui, Claude Bartolone qui à l'instant indique sur iTélé qu'il n'enlève aucun des mots prononcés à l'égard de Valérie Pécresse. On revient en dessin, Hélène, sur la COP 21 et le marathon final pour parvenir à un accord.
Croquis signé Red, à retrouver sur le site de Reporter, magazine de l'écologie, qui suit comme France Inter évidemment les négociations heure par heure. Dessin pas franchement optimiste. On y voit sur le podium de la COP 21 un oiseau tout mazouté, remportant la médaille d'or, médaille d'argent pour un fût de déchets radioactifs et de bronze pour un arbre décimé. Vision du verre à moitié vide donc, quand Emmanuel Réjus dans La Croix tente de voir, elle, le verre à moitié plein avant les dernières heures de négociation. Au Bourget, raconte-t-elle, un mot suscite l'effroi, Copenhague. Copenhague, lieu de la dernière conférence climatique. Mais à quelques heures de l'échéance, le spectre d'une déroute à la Copenhague semble écarté, écrit la journaliste. Personne ne semble douter, tout en croisant les doigts, qu'un accord soit conclu, même si son niveau d'ambition reste incertain, concède-t-elle. Pourquoi un tel optimisme? Eh bien parce que contrairement à 2009, tout le monde tire dans le même sens, chef d'État, entreprise, ville et scientifiques, parce que cette fois, les États-Unis et la Chine se montrent très impliqués dans la négociation, mais aussi parce que l'accord de Paris sera par nature moins ambitieux que celui recherché à Copenhague. Pas de contraintes par le haut et surtout pas de sanctions, mais des engagements nationaux volontaires, ce qui fait donc craindre à beaucoup le manque d'ambition du texte final. Autre actualité en France, avec l'illustration de l'art de l'esquive, parfois des dessinateurs de presse. Rançon, dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, met face à face à un sondeur peut-être et un groupe de jeunes. Citez-moi un produit de première nécessité dont la TVA est trop élevée selon vous. Réponse unanime des jeunes, les smartphones. Ouais, sauf qu'on ne parle pas du tout de cela, mais de la fameuse TVA sur les tampons et les serviettes hygiéniques qui, après moult débats, devrait être ramenée à 5,5% contre 20 aujourd'hui. Le Parisien qui nous raconte comment ce combat pour la reconnaissance de ces produits d'hygiène féminine comme produits de première nécessité est devenu un combat mondial en 2015 de Montréal à Londres et bientôt à Berlin et à Rome.
Manuel Valls, vous nous confirmez cet arbitrage?
Oui, absolument. Le Parlement souhaite baisser ce taux. Le gouvernement ne s'y opposera pas. C'est une mesure de bon sens.
Ne s'y oppose plus, parce que vous y êtes opposé.
Ne s'y opposera plus, c'est une mesure de bon sens. Ça fait partie du dialogue avec le Parlement. J'ai bien compris que c'était un problème mondial.
Et qui coûte de l'argent.
50 millions d'euros, je vous le confirme.
Donc, vous avez trouvé l'argent pour financer la mesure.
Nous avons trouvé cet argent pour financer cette mesure.
On termine, Hélène, par Noël, toujours en dessin.
Noël et la fin de l'année, on termine effectivement avec ce dessin de Lasserre dans Marianne. Un homme, planqué sous sa couette, refuse de sortir de son lit. Sa femme, tu te lèves pas? Réponse, non. Réveille-moi en 2016, j'en peux plus de 2015. Bon résumé de tout ce qu'on vient d'évoquer.
Merci Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter.